إخوة الإيمان، سنواصل درسنا في التعليق على ما ذكره أئمة الهدى في شرح حديث معاذ رضي الله عنه. Nous allons poursuivre notre ta'liq sur les propos des savants de l'islam sur l'explication du hadith de Mu'adh radiyallahu anhu. Et juste avant d'aller à la pause, on était en train de parler de Mu'adh ibn Jabal qui est le rapporteur de ce hadith du prophète, celui qui a rapporté ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a dit qu'il s'appelle Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji al-Madani, ça veut dire qu'il était de Médine, un natif de Médine. Al-Badari, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui avaient assisté à la bataille de Badr et qui ont bénéficié du mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ce dernier, qui est celui qui a été rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de l'incident qu'il y a eu entre Hatib ibn Abi Balta et le prophète et la communauté musulmane, et nous avons cité l'incident. Le prophète avait dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَى عَلَى أَهْلِ بَدَرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Et qui te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas dit aux gens de Badr? Et quand le prophète dit ça, c'est pour dire que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à tous ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc Mu'adh faisait partie de ceux qui avaient assisté à la bataille de Badr. Il avait embrassé l'islam à l'âge de 18 ans. Il était présent lors de l'allégeance sous l'arbre Bay'at al-Aqaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit avoir agréé tous ceux qui ont prêté cette allégeance. Qala Allah ta'ala لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala avait agréé les croyants le jour où ils prêtaient allégeance sous l'arbre. Ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. Ça veut dire que, sans aucun doute, le musulman se doit de croire que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anha a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. وشهد بدرا وأحدا إلى بعثتي على بتاج بدر على بتاج أحد على بتاج خندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤاد أبعثتي على كل بتاج وكان لقوف محمد صلى الله عليه وسلم أبعثيبا. يا إخوة savez tout dit qui est مؤاد ابن جبل رضي الله عنه. C'est pour ça que dans Hilyat al-Awliya, Abu Nu'aym a rapporté un asar. Ou alors, non, un asar de Omar radiallahu anhu, où il dit Lo adraktu mu'adhan, thumma wallaytuhu. ثم لقيت ربي فقال من استخلفت على أمة محمد لقلت سميت نبيك وعبدك يقول يأتي معاذ ابن جبل بين يدي العلماء برتوة والرتوة رمية سهم. Dans ce récit, Omar ibn Khattab, en parlant de la place de Mu'adh radiallahu anhu dans cette communauté, dit si j'ai rencontré Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu et je faisais de lui le successeur, mon successeur. Non. Et quand j'ai rencontré Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demandait qui est-ce que tu as choisi comme successeur à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit je vais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que j'avais entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire que Mu'az viendra le jour de la résurrection avant les savants. C'est d'une distance de Ratoua. En fait, c'est quand on lance une flèche, quand on tire une flèche et qu'on tire, la distance que ce tir fait dit que le Mu'ad radiallahu anhu arrivera avant les savants de cette distance. Ceci pour montrer la place de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Sans compter que Mu'ad faisait partie des savants de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des grands savants parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans Bukhari, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit khudul Qur'an min arba'atin, apprenez le Coran de quatre personnes, min ibn Mas'udin wa Ubay wa Mu'ad ibn Jabal wa Salim Mawla Hudhayfa. Apprenez le Coran de quatre personnes. Vous voyez que lorsque Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili Hafizahullah a dit que l'on ne se doit d'enseigner que lorsque l'enseignant lui a donné l'autorisation de transmettre, ce n'était pas une innovation. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam choisissait ses compagnons et leur donnait la mission en fonction de leur niveau. C'est une base parmi les bases en islam. On acquiert la science que de ceux de qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre. Qala Allah ta'ala fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogez, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu poses une question religieuse, du point de vue islamique, il faut que tu te sois rassuré que c'est lui à qui tu poses la question fait partie des gens des sciences, ceux qui sont connus pour avoir étudié. Si tu poses la question à n'importe qui, même s'il te donne la bonne réponse, tu as fait un péché, tu as commis un péché parce que tu as désobéi à Allah. Même s'il te donne la bonne réponse. Et rappelez-vous d'une chose que j'avais dit ici hier. Quand on évoque une expression citée par la charia, la connotation que prend cette expression, c'est la connotation que lui donne la charia et non celle que nous lui prêtons. C'est pour ça que vous pouvez vous m'appeler cher. Je ne suis pas un cher du point de vue de la charia. Et ça vous engage parce que ce que vous dites, vous serez interrogé par rapport. Satuktabu shahadatuhum wa yusalun. Leur témoignage sera inscrit et ils seront interrogés. Donc rassurez-vous, chaque quand vous prononcez un mot, que le mot que vous prononcez prend la connotation que vous lui donnez en charia. Ahl al-dhikr, en charia, les hommes de science, les détenteurs de science, ce sont ceux qui sont connus pour avoir étudié, qui ont reçu l'autorisation de ceux qui les ont formés de transmettre. C'est de ces derniers que nous devons étudier, de poser les questions religieuses. Et même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suivait cette logique. C'est pour ça qu'il dit « Khuzul Qur'an min arba'atin » Prenez le Qur'an de quatre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre des autres. Parce que les autres avaient reçu l'ordre de transmettre aussi après. Mais quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole, c'est quand il avait déjà formé ceci et qu'ils étaient disposés à transmettre. Ça veut également dire que ceux qui recevront de ces derniers, qui vont étudier, qui vont apprendre de ces derniers et qui vont recevoir l'autorisation de transmettre, Dieu pourront aussi enseigner. C'est qu'à la base, c'est une question simple parce que la base est claire. Mais seulement de nos jours, Ahl al-Dhikr, c'est celui que nous considérons comme Ahl al-Dhikr, même si sur la balance de la charia, c'est un jahil, murakkab. Même si sur la balance de la charia, c'est un ignorant avéré qui ignore lui-même qu'il est ignorant. Qu'Allah nous en préserve. Donc, dans ce hadith qui a été rapporté par Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez le Coran, apprenez le Coran de quatre personnes, Et parmi ces quatre, il a cité Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Voilà donc qui est Mu'ad. Et la place de Mu'ad dans cette communauté. Voilà pourquoi Ibn Jarir al-Tabari radiyallahu anhu ou rahimahullah. Il a rapporté un hasard d'Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il avait fait l'éloge de Mu'ad ibn Jabal un jour. Il a dit إن معاذ كان أمة قانتا لله إن معاذ كان أمة قانتا لله إلى جسي معاذ ذكر الله سبحانه وتعالى بجسي إبراهيم عليه السلام alors quand quelqu'un a entendu cette parole parmi les élèves de معاذ de ابن مسعود رضي الله عنه Il ne s'est pas tué, comme les gens ont l'habitude de faire aujourd'hui, d'être complaisant sur les questions relatives à la religion. Il n'a pas dit que Mu'az, là, c'est un compagnon du prophète. Hein? Ce qu'il dit là, il connaît. Non. Il est resté sur la base. Et il a dit, Nasiya, innama qala Allah, inna Ibrahim kana ummatan lillah, إن إبراهيم كان أمة لله كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. Il a donc dit que le cheikh a oublié, sinon dans le Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ibrahim à lui seul était Umma, un peuple à lui seul. C'est pour ça que quand on a concrétisé la tawhid, si on vit dans un village où les gens font le shirk, c'est celui qui a concrétisé la tawhid qui représente le village. Et c'est lui qui est même le village auprès d'Allah. Et tous ceux-là ne sont rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala élève par la foi et rabaisse par l'ignorance. Et la base de la foi, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base de l'ignorance, c'est le shirk. Donc Allah élève par la foi et rabaisse par l'ignorance. Allah élève par la tawhid et rabaisse par le shirk. C'est quoi le dalil? Qu'Allah élève par la foi, par la science, par la tawhid et rabaisse par le shirk. Si je dis quelque chose, vous pouvez demander le dalil. Nahnu qawmun la natakallamu illa bil adilla. Bi'ibnillah. Nous sommes un peuple qui ne nous devons de nous prononcer qu'à la base, qu'à la lumière des textes de la révélation. Parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dalil c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme harmonieusement. Allah a créé l'homme harmonieusement. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thumma qala fa'al. ثم رددناه أسفل سافلين. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a rabaissé au dernier niveau, au plus bas niveau. Taïf. Pourquoi est-ce, comment est-ce que Allah l'a rabaissé si Allah l'a créé harmonieusement? Par quoi est-ce que Allah l'a rabaissé? C'est par l'ignorance. Parce qu'en réalité, après l'avoir créé harmonieusement, il sort du ventre de sa mère. Donc c'est par l'ignorance qu'on a été rabaissé, c'est à cause de l'ignorance, parce que nous sommes sortis des ventes des hommes ignorants. Et par quoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève? Yarfa illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. C'est pas la foi, la concrétisation du tawhid. Et la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève. Yarfa illahu alladhina amanu. Allah élève ceux qui ont cru. Walladhina utul ilma darajat. Et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la science en degré. Allah élève ceux qui en degré. Donc ce n'est pas la concrétisation de la tawhid. Ce n'est pas la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève. Et c'est pas l'ignorance qu'Allah subhanahu wa ta'ala rabaisse. Païs. Donc, quand la personne a entendu Mu'ad ibn Jabal radiallahu Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit ça sur Mu'ad, il a dit que
Et regardez les adab, adab, mal, ulama. Il n'a pas fait de rad. Hein, on dit rad, foulan, à la foulan. Alors que comme nous disons avant, c'est lui-là qui est même en train de faire le rad dans la science, il n'est même pas encore né. Et il se lève pour faire la trêve à celui qui est normalement devrait être ton père spirituel. C'est pas comme ça que les compagnons se comportaient. Il a dit, Nasiya. Ibn Mas'ud a purement oublié, sinon dans le verset, Tamassak bil Asl, lui s'est cramponné au texte. Mais il y a quelque chose qui l'a échappé. C'est que personne ne peut comprendre les textes mieux que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il s'était attaché à ce principe, il allait plutôt poser la question directement à Ibn Mas'ud. C'est quoi le lien entre les deux? Ibn Mas'ud a donc dit, Man Nasiya, qui a oublié? Innama kunna nushabbihu mu'adhan bi Ibrahim alayhi salam. Qui a oublié? On comparait plutôt Ibrahim à Mu'adh. On se rappelait de Ibrahim alayhi salam quand on voyait Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Et c'est pour ça donc qu'il a dit Mu'adh lui à lui seul était une umma. Ensuite, écoutez maintenant, pourquoi est-ce qu'il lui a attribué ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait attribué à Ibrahim. Ensuite, il a défini ce que ça veut dire, ce que veut dire umma. Et Ibn Mas'ud a défini ce que veut dire umma. Qanitan lillah. Qala wal umma muallimun nas al khayr. C'est celui qui enseigne le bien, qui fait tout pour que la religion d'Allah soit établie sur terre. Parce que c'est la science qui fait une communauté. Parce que c'est la science qui fait une communauté. Et parce que les détenteurs des sciences sont les meilleurs hommes. Les détenteurs des sciences sont les meilleurs hommes. Si tu veux faire partie des meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherche la science. La science est utile. Elle met en pratique cette science. Qala Allah ta'ala. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر نعم غير ممنون جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم رضوا عنه لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية نعم تستطيع بلاد ده سورة البينة طيب الله سبحانه وتعالى دي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Après avoir parlé des mécréants, des pires créatures d'Allah سبحانه وتعالى, il a dit exception faite de ceux qui ont cru et qui font les bonnes œuvres. Il dit ceux-là sont les meilleures créatures. Mais si tu ne vas pas jusqu'à la fin du verset, tu ne vas pas comprendre de qui il s'agit ici. Et qu'il s'agit des savants. Il a ikahum khairul bariya. Ceux-là sont les meilleures créatures. Jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti al-anhar. Khalidina fiha abada. Radiallahu anhum wa radouan. Les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jannat, ce sont des paradis sous lesquels couleront des ruisseaux. Khalidina fiha, ils y demeureront éternellement. Oula Zalika, l'iman khashiya rabba, tout ce qui a été cité précédemment ne concerne que celui qui craint son Seigneur. Et regardez les termes utilisés par Allah. L'iman khashiya, khashiya rabba, innama yakhsha Allah min ubadihi al-ulama. Donc le verset ne concerne que les savants. Zalika liman khashiya rabba, c'est Allah qui a dit non, c'est lui qui a fait toutes les promesses, non? À la fin il nous dit encore que ces promesses là c'est pour ceux qui yakhshawna rabbahum, qui craignent Allah. Et il y a une différence entre taqwa et al-khashiya wal khawf. C'est que al-khashiya hiya al-khawf ma'a al-ilm, hiya al-khawf al-makroon bil-ilm. C'est une peur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est basée sur la science. une peur engendrée par la science. C'est ça Al-Khashiya. Et Allah dit que tous les mérites précédemment cités, Allah les a réservés à ceux-là. Et dans un autre verset, il dit innama adatul hasr. Adatu al-hasr, ça veut dire que c'est une expression arabe qui vient indiquer la restriction. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ne possède la khashiya que les savants. Tu ne peux pas avoir cette peur sans étudier, sans être un savant. Tout ceci pour dire qu'en réalité, ceux qui font les communautés, et ceux qui font mal les communautés, proprement dit, ce sont les savants. ولذلك تأملوا في الذين جددوا هذه الأمة جددوا الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. Méditez sur tous ceux qui ont réformé la communauté du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. C'était des savants. Regardez Imam Ahmad ibn Hanbal qui a réformé le dogme des musulmans. Quand les gens étaient fondés, étaient dans le délire de l'innovation, dans le dogme. C'est par lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réformé cette communauté. C'était un savant. Et regardez Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Regardez Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, ce sont les savants qui font les communautés. Et ce sont les savants qui réforment les communautés. Donc Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu était une umma lui tout seul parce qu'il était un enseignant du bien, un réformateur. Et quand on a compris ces explications, on comprend combien ça fait rire quand un groupe d'ignorants se lève pour parler de la réforme de la da'wa salafia. Yaki, tajdid يحتاج إلى علم ومبناه على العلم الصحيح الصافي. La réforme ne peut se faire que par le biais de la science authentique, de la science pure. Donc un groupe de personnes qui ne sont pas connues pour avoir étudié et qui sont connues pour n'avoir pas étudié, écoutez bien, ils ne sont pas connus pour avoir étudié, ils sont connus pour n'avoir pas étudié. Ce sont encore eux qui se lèvent pour réformer la da'wa. Et subhanallah, regardez ce qui se passe. Parce qu'en réalité, quand on met une chose à la place qui n'est pas la sienne, on est venu par déplacer ce qui devrait être à cette place pour mettre à une autre place. C'est pour ça que quand ces gens s'élèvent, ils commencent à tirer pour ceux qui en réalité sont en train de s'efforcer à réformer la communauté. Parce qu'ils ne sont pas ceux qui devraient faire ce travail. Alors quand ils s'élèvent, ils commencent par ceux qui devraient faire ce travail. Parce que leur désordre ne peut passer que si ils coupent la route entre les étudiants anciens, ceux qui sont connus pour avoir étudié auprès des savants. Ils savent que leur désordre ne peut passer que lorsqu'il y a une barrière entre la communauté et ces derniers. Et c'est pour ça que Ha'oula et Kutba Uttur, ce sont des coupeurs de route. Pas cette route, mais la route de la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, si on veut être un enseignant de bien, on doit suivre les pas de Mu'ad. On doit étudier jusqu'à ce que l'enseignant nous demande de transmettre, comme Mu'ad avait étudié auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète lui demandait de transmettre. Il l'a même envoyé au Yémen. Vous avez compris pourquoi c'est lui que le prophète avait envoyé au Yémen maintenant? Vous avez compris les enseignements qu'on dit quand on parle de Mu'ad? On n'a pas encore commencé le hadith. Nous ne sommes qu'avec Mu'ad. C'est lui qui rapporte ce hadith. Donc, parmi les leçons que nous pouvons tirer, c'est que ceux qui enseignes doivent être ceux qui sont connus pour avoir étudié et qui ont reçu l'ordre de leurs enseignants de les transmettre, comme était Mu'ad. Il a dit wal qanitu lillah huwa al muti'u lillah wa rasulihi. Et al qanit, c'est lui qui se tient debout pour Allah qui soumet son être à Allah, c'est en réalité celui qui obéit à Allah et à son messager. Et ces deux étaient réunis sur Mu'ad. Et comme ces deux s'étaient réunis sur Ibrahim alayhi salam, Allah lui a donné cette sentence. Quand ça s'est réuni sur Mu'ad, Ibn Mas'ud a appliqué la sentence à Mu'ad. Maintenant, vous allez comprendre la qaïda. Les savants disent que Al-Illa, non, Al-Illa, Al-Hukum, Yadouruma Al-Illa, Wujudan, Wa Adaman. La sentence suit la cause. Partout où on retrouve la cause, on retrouve la sentence. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala avait qualifié Mu'ad de Umma Qanitan Lillah, Ibrahim alayhi salam, de Umma Qanitan Lillah, parce qu'il était un enseignant de bien, de la tawhid, de l'islam, et parce qu'il avait soumis son être à Allah subhanahu wa ta'ala et obéissait à Allah et à son messager, tous ceux qui enseignent le bien, qui étudient et enseignent le bien, non, obéissent à Allah et à son messager, ont le même, au même jugement. Wa wallahi alladhi la ilaha ghayru. Sami'tu ahad mashayikhina, j'ai entendu l'un de nos enseignants à l'université islamique de Médine. On parlait de la dawra qu'on voulait organiser avec Cheikh Souleymane Rouhaili. Il était prévu que le chef devait venir au Cameroun cette année, mais malheureusement, il a subi une opération qui l'a fait s'excuser. Quand j'ai parlé de ça avec ce chef, il m'a dit, Cheikh Souleymane Oumma. Il a dit, Cheikh Souleymane Oumma. Cheikh Souleymane Rouhaili, Hafidahullah. Donc quand les savants parlent comme ça, c'est parce qu'ils partent sur les bases. Ne venez pas dire la même chose sur nous. Vous voyez, il y a des bases. Et c'est pour ça que j'attire toujours l'attention des frères qui font les éloges. Ne faites pas parce que vous avez vu les savants faire, ils connaissent les bases. Ils savent sur quoi ils se basent pour dire ce qu'ils ont dit. Alors que nous, on le dit par pur suivisme. Et ça peut faire problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science bénéfique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension des bases de l'islam. Dans le hadith, Mu'ad radiallahu anhu dit, Qultu, moi Mu'ad j'avais dit. Maintenant on a compris qui est Mu'ad. Et la nature de la question qu'il va poser au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va encore attester de son immense savoir. Qala Qultu, j'ai dit, Ya Rasul Allah, oh envoyé d'Allah, oh messager d'Allah, akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Oh messager d'Allah, akhbirni, informe-moi bi amalin yudkhilni al-jannah, qui me permettra d'accéder au paradis, wa yubaiduni anin nar, et qui m'éloignera du feu de l'enfer. Voilà, le prophète a dit, laqad sa'alta an 'azimin, laqad sa'alta an 'azimin, certes tu as posé la question au sujet d'une chose immense. Les grandes questions ne peuvent provenir que de grandes personnes. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. La bonne terre produit le bon fruit par la permission d'Allah. Les bonnes personnes disent les bonnes paroles par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les grands compagnons posent les grandes questions par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les leçons et les qawaïd que nous pouvons tirer de cette première question, c'est كَيْفَ يَجِبُ أَنْ يُفَكِّرَ الْمُسْلِمِ. كَيْفَ يَجِبُ أَنْ يُفَكِّرَ الْمُسْلِمِ. Comment est-ce qu'il est obligé que le musulman réfléchisse? C'est comme ça, comme Mu'ad réfléchissait. Parce que le prophète a mis le cachet sur cette façon de réfléchir, d'analyser, de comprendre. en disant « Lakad sa'alta an azimin ». Certes, tu as posé la question au sujet d'une chose immense. Ça veut dire que sa façon de réfléchir, qui était le fruit de ce questionnement, est une bonne façon de réfléchir. Le bon musulman, c'est celui qui réfléchit comment accéder au paradis et échapper au feu de l'enfer. فَلْيَدَعْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا هَذَا السُّعَالِ نَطْبَ عَيْنِهِ وَلِيَعِيشْ مَعْهُ. Que chacun d'entre nous mette cette question devant lui et que cette question soit celle qui le guide sur tout ce qu'il entreprend. Hier, quand tu vas faire le commerce, pose-toi la question de savoir comment faire ce commerce de telle sorte que ça me rapproche, ça me fasse accéder au paradis et m'éloigne de l'enfer. Quand tu vas te marier, pose-toi la question de savoir comment me marier de telle sorte que ce mariage me permette d'accéder au paradis et m'éloigne du feu de l'enfer. Quand tu éduques tes enfants, pose-toi la question de savoir comment éduquer mes enfants de telle sorte que cela me rapproche, me fasse accéder au paradis et m'éloigne du feu de l'enfer. C'est comme ça que le musulman se doit de réfléchir. La base de la réflexion du musulman, c'est ça. C'est aspirer au paradis et éviter le feu de l'enfer. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif qu'il cherche à atteindre, et ce, à tous les prix. Pourquoi est-ce que le musulman se bat sur le sentier d'Allah? Parce qu'il veut accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on accède à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, on accède au paradis et on est épargné du feu de l'enfer. En réalité, comme nous avons dit à l'introduction, c'est à cela que se résume notre vie. Quel que soit ce qu'on fait, on finira par rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la rencontre est imminente et évidente. C'est une certitude, on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, c'est au niveau de la nature de la rencontre qu'il y aura entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ce soit une rencontre. Tout le monde se doit d'aspirer à ce que sa rencontre avec Allah soit une rencontre pleine de miséricorde. Ce qui veut dire une rencontre par le biais duquel on accédera au paradis et on sera épargné du feu de l'enfer. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'objectif que nous cherchons à atteindre à travers le but de notre création, c'est accéder au paradis et échapper au feu de l'enfer. Et c'est même pour ça qu'Allah nous a créés. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ومعنى يعبدون يوحدون. Et le sens de l'adoration ici, c'est concrétiser la tawhid. Nous allons revenir là-dessus dans le hadith. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on fasse tout ce qu'on peut pour éviter l'enfer et accéder au paradis. Et c'est pour ça que c'est ça la grande réussite. C'est ça la réussite absolue. C'est échapper au feu de l'enfer et accéder au paradis. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque est épargné au feu de l'enfer et introduit au paradis aura certes réussi. C'est ça la réussite absolue. C'est pour ça que tout ce qui peut être considéré comme réussite ici sur terre, wallahi, si elle conduit au désastre et au malheur dans l'au-delà, c'est le malheur absolu. Parce que même sur terre, pour déterminer un malheur, là, on voit la fin, ce à quoi conduit cela. Ça peut être quelque chose qui est considéré par celui qui le fait comme un bien, mais qu'au fond, c'est un malheur. Prenons l'exemple de la consommation de l'alcool. Est-ce que celui qui consomme l'alcool n'éprouve pas une certaine jouissance? Non? Une certaine satisfaction. Mais c'est quoi la finalité? Pisser sur lui, marcher en route comme un fou. Est-ce que c'est le bonheur ça? Est-ce que c'est un bien? Mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'a pas ressenti quelque chose quand il buvait des biens, une certaine satisfaction? Mais à quoi est-ce que yani, qu'est-ce que c'est à quoi cela a conduit? C'est quoi? C'est à quoi le fait qu'il consomme de l'alcool a conduit? C'est quoi? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pour ça que la consommation de l'alcool, du point de vue des doués d'intelligence, des hommes normaux, parce qu'on ne parle pas des hommes qui ont atteint le degré d'animosité, non, qui sont comme des animaux, non, on parle des hommes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré par la raison. Ils savent que l'alcool est une mauvaise chose, même s'ils le consomment. Non, c'est pour dire que on regarde toujours ce à quoi conduit une chose pour déterminer si c'est un bien ou si c'est un mal. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, est-ce que piquer quelqu'un c'est une bonne chose? On le pique, non? Est-ce que piquer quelqu'un c'est une bonne chose? Mais pourquoi est-ce qu'on le pique? Hein? C'est pour le guérir. Ce but fait que le piquer devient une bonne chose. C'est pour ça que ce que les gens considèrent sur terre comme le malheur, si ça conduit au bonheur dans l'au-delà qui est le bonheur absolu, en réalité c'est le bonheur. Et ce que les gens considèrent ici sur terre comme le bonheur, si en réalité ce bonheur conduit au malheur absolu, qui est le malheur éternel, en réalité c'est un malheur. Donc, c'est comme ça que le croyant se doit de réfléchir. Et c'est comme ça que réfléchissaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Mouaz a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,